Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment vitale pour toute organisation qui navigue dans notre monde un peu incertain. Comment ne pas seulement encaisser les coups durs, mais aussi apprendre, s'adapter et même peut-être anticiper les transformations majeures.
C'est la grande question, effectivement. Survivre ne suffit plus, il faut aller au-delà.
Exactement. Et pour explorer ça, on a mis la main sur une étude vraiment intéressante du CEDIP. C'est le Centre d'expertise au service des administrations françaises.
Oui, un document de janvier 2022.
C'est ça. Faciliter la résilience organisationnelle. Alors bon, c'était pensé au départ pour des ministères.
Oui, le contexte public.
Mais franchement, les idées, elles résonnent bien au-delà. Partout où des équipes font face à des changements, des réformes, enfin tout ce qui bouge, quoi. Concrètement, cultiver cette capacité d'adaptation.
C'est un défi majeur. Et pour bien commencer, peut-être juste poser les bases. Qu'est-ce qu'on entend exactement par résilience ?
Oui, bonne idée. Le mot lui-même.
Il vient du latin résilière, ça veut dire rebondir, sauter en arrière. À l'origine, c'est un terme de physique.
Ah oui.
Oui, la capacité d'un matériau à reprendre sa forme après avoir subi une contrainte, une déformation.
D'accord.
Tu vois, un métal qui plie mais qui ne casse pas.
D'accord, je vois l'image.
Et puis, ce concept, il a voyagé. Il est arrivé en psychologie. On pense souvent à Amy Werner.
Ses travaux sur les enfants hawaïens.
Exactement. Qui résistait dans des environnements très durs. Et en France, bien sûr, Boris Cyrulnik.
Oui, incontournable sur ce sujet.
Pour lui, qui a été marqué personnellement par l'occupation, la résilience, c'est cette faculté incroyable à surmonter l'adversité, à ne pas être prisonnier d'un destin tragique.
Une sorte d'anti-destin, comme il dit.
C'est ça, une reconstruction possible, même après des traumatismes très lourds.
Mais, et c'est important de le souligner, je crois, ce n'est pas de l'invulnérabilité. Le rapport utilise une image assez frappante.
Oui, les trois poupées face au marteau. Verre, plastique, acier.
Voilà. L'acier résiste sans marque, mais ce n'est pas ça la résilience humaine ou organisationnelle, si.
Non, exactement. La résilience, ce n'est pas l'armure en acier. Elle ne nie pas la blessure, la difficulté. C'est plutôt la capacité à, oui, absorber le choc, mais surtout à se réparer.
À apprendre aussi, peut-être.
À apprendre et à continuer, parfois même en étant transformé par l'épreuve. Et ce n'est pas quelque chose d'inné, ça se développe, ça se cultive.
D'accord. Et si on applique ça à une organisation, à un collectif de travail, le document cite des auteurs...
Oui, Koenigs et Thonneau. Pour eux, c'est la capacité d'un groupe à continuer son activité, à se projeter, même face à des perturbations fortes.
Des réorganisations, des crises.
Voilà, ce genre de choses.
Est-ce que cette étude du CEDIP apporte de particulièrement intéressant, tu disais ?
C'est l'insistance sur le fait que ce n'est pas juste une capacité passive à encaisser. C'est vraiment une démarche active.
S'adapter et anticiper.
C'est ça. Et ça ne se décrète pas comme ça, hop, d'un coup de baguette magique. Il faut, et c'est le terme du rapport, un écosystème favorable.
Un écosystème. J'aime bien ce mot. Ça suggère quelque chose de vivant, d'interconnecté.
Tout à fait.
D'ailleurs, le rapport propose 8 leviers pour construire cet écosystème. Bon, on n'aura pas le temps de tous les détailler, mais...
Non, mais on peut en explorer quelques-uns, les plus marquants peut-être.
Oui. Le premier point qui ressort vraiment fort, c'est l'idée de cultiver le ACA. Alors, ACA, qu'est-ce que c'est ?
ACA, c'est l'acronyme pour autonomie, compétence et appartenance sociale. Ce sont 3 besoins psychologiques fondamentaux.
Bien connu en psycho de la motivation, ça.
Exactement. Et ce que l'étude souligne, c'est le rôle absolument central pour la résilience. Satisfaire ses besoins, ça nourrit l'engagement, la motivation, la capacité à faire face.
D'accord. Donc ce ne sont pas juste des concepts de management un peu feel good, quoi. C'est vraiment des piliers pour tenir bon dans la tempête.
C'est tout à fait ça, des fondations solides.
Prenons l'autonomie, par exemple. C'est le besoin de sentir qu'on a une certaine maîtrise sur son travail, qu'on n'est pas juste un pion.
C'est ça. Concrètement, comment ça se traduit ?
Par un management qui fixe des objectifs clairs, oui, mais qui laisse de la latitude sur la manière de les atteindre.
Le comment, c'est l'affaire de l'équipe.
Voilà. Ça veut dire déléguer réellement, pas juste refiler les tâches ingrates. Donner de l'initiative. Et aussi, point crucial et souvent oublié, instaurer un vrai droit à l'erreur.
Ah, le fameux droit à l'erreur. Plus facile à dire qu'à faire, parfois.
C'est sûr. Mais voir l'erreur, non comme une faute à punir, mais comme une occasion d'apprendre, collectivement.
Ça change tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire abandonner les gens. Il faut des points réguliers, de l'écoute.
Un cadre clair, mais de la liberté à l'intérieur. J'imagine que ça demande un certain courage managérial.
Oui, lâcher un peu le contrôle.
Et pour la compétence, le besoin de se sentir efficace, de maîtriser son sujet?
Oui, alors là, le levier qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la formation, le développement des compétences.
Classique.
Classique, mais essentiel. Et ce n'est pas juste envoyer les gens faire un stage une fois par an. C'est créer une culture où l'apprentissage est valorisé en continu.
Où on peut monter en expertise.
Exactement.
Se sentir utile, efficace face aux défis. C'est un antidote puissant au sentiment d'impuissance qui peut vraiment paralyser face au changement ou à la difficulté.
Jouet. Et le troisième, l'appartenance sociale. Le A de AK.
Le besoin de se sentir connecté aux autres, de faire partie d'une équipe, d'un collectif soudé. C'est fondamental ça, non ? Surtout quand ça secoue dehors.
Absolument. Et ça se construit comment ? Par la qualité de la communication interne ? Par des rituels d'équipe qui renforcent les liens, même des choses simples, un café le matin ? Par une attention particulière à l'intégration des nouveaux arrivants ?
Faire en sorte que personne ne se sente isolé.
C'est ça. Un collectif où on se sent soutenu, où on peut compter les uns sur les autres, c'est intrinsèquement plus résilient. L'étude est claire là-dessus. Si l'un de ces trois besoins, autonomie, compétence, appartenance, est sérieusement mis à mal, la capacité de résilience s'effondre.
Oui, tant au niveau individuel que collectif. C'est vraiment le socle.
C'est très clair sur l'importance de ce socle humain, de cette ACA. Mais alors ensuite, le rapport aborde un concept qui m'a intrigué. Choyer les toxic handlers. L'expression est forte. De quoi on parle là ? Oui, l'expression est marquante. C'est un concept qui a été identifié notamment par Gilles Tenneau, un des auteurs qu'on a cité. Les toxic handlers, qu'on pourrait traduire par porteurs de souffrance ou gestionnaires de toxicité.
Pas évident à traduire.
Non. Ce sont ces personnes, souvent des managers, mais pas seulement, ça peut être des collègues, qui jouent un rôle informel mais crucial d'éponge émotionnelle dans l'organisation.
D'éponge émotionnelle ? C'est-à-dire ?
Mais ils écoutent les plaintes, ils absorbent l'anxiété ambiante, ils désamorcent les tensions liées au changement, aux réorganisations, aux situations difficiles.
Des sortes de paratonnerres humains ? Ou de médiateurs de l'ombre ?
Un peu des deux, oui. Le rapport décrit bien leur qualité. La sympathie crée un lien positif, l'empathie, ressentir, comprendre l'émotion de l'autre, et la compassion, vouloir agir pour soulager cette souffrance.
Donc ils écoutent activement, sans jugement.
C'est ça. Ils servent souvent de confidents, de médiateurs discrets. L'étude donne l'exemple d'un certain Michael, un directeur de projet.
Oui, j'ai vu ça.
Qui faisait tampon entre un dirigeant très dur, très directif, et ses équipes. Il passait un temps fou à écouter les frustrations des collaborateurs, et d'un autre côté, à reformuler les messages du chef pour les rendre plus acceptables. Un rôle ?
Épuisant. Épuisant, on imagine sans peine. Et c'est là qu'est le risque, j'imagine, si ces personnes sont si précieuses pour le collectif.
Bah oui.
Comment l'organisation les aide, les soutient ? Ou est-ce qu'on les laisse juste s'user ?
C'est tout l'enjeu. Et le rapport insiste beaucoup là-dessus. Le premier pas, c'est déjà de reconnaître leur existence et leur valeur. Souvent, ce rôle est complètement invisible, voire même un peu dévalorisé, genre « Ah, lui, il passe son temps à écouter les ragots. »
Alors qu'en fait, il huile les rouages émotionnels.
Exactement. Donc, première étape, les détecter, reconnaître leur contribution. Ensuite, oui, s'appuyer sur eux, mais surtout, surtout les protéger. Le risque d'épuisement professionnel, de burn-out, ce qu'on appelle les RPS.
Les risques psychosociaux.
Est très, très élevé pour ces personnes. Elles sont en première ligne de la souffrance au travail.
Mais concrètement, comment on les protège ? On leur donne une prime de toxic handling ?
Ça serait un peu cynique, non ? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas l'idée. La protection passe par plusieurs choses. D'abord, leur fournir du soutien direct. Ça peut être de la formation, à l'écoute active, à la gestion des émotions difficiles. Ça peut être un espace de parole pour eux-mêmes, une sorte de supervision où ils peuvent déposer ce qu'ils portent.
D'accord, un soutien individuel.
Oui. Mais l'étude suggère aussi, et c'est très intéressant, une approche plus systémique. L'idée, c'est de développer les compétences émotionnelles et relationnelles de toute l'équipe, de toute l'organisation.
Ah oui, pour que la charge soit mieux répartie.
Exactement. Former tout le monde à la communication non violente, par exemple, à la gestion du stress, pour que le climat général soit moins toxique à la base et que le partage des émotions soit plus fluide, plus naturel pour tous.
Moins besoin d'éponge si on renverse moins de liquide émotionnel, en quelque sorte.
C'est un peu ça. L'idée n'est pas de créer quelques super-héros qui absorbent tout et finissent par craquer, mais de rendre le collectif dans son ensemble plus mature émotionnellement, plus capable de gérer les tensions.
Je vois. On passe d'une vision un peu individuelle du héros sauveur à une responsabilité plus collective de la régulation émotionnelle. Ça me semble plus sain, plus durable.
Oui, c'est une perspective clé.
Et cette idée de collectif, ça nous amène tout naturellement à un autre levier important du rapport homme, s'appuyer sur l'intelligence collective. Le document distingue deux formes, c'est bien ça ?
Tout à fait. Il y a d'abord l'intelligence collective qu'on pourrait appeler collaborative. C'est celle qu'on connaît le mieux, la plus intuitive.
Le fameux « plusieurs têtes valent mieux qu'une ».
C'est ça. L'idée qu'un groupe qui coopère bien, qui met en commun ses idées et ses compétences, peut résoudre des problèmes complexes qu'un individu seul ne pourra pas tacler.
Et pour que ça marche, il faut quoi ? Juste mettre les gens ensemble ?
Non, justement. Ça demande des conditions. Il faut des objectifs clairs, partagés. Il faut des compétences diverses et complémentaires dans le groupe. Et surtout, il faut des processus d'interaction efficaces.
Des méthodes de travail ?
Oui, des réunions bien structurées, des outils de partage d'informations, des méthodes comme le co-développement, les ateliers de créativité, les retours d'expérience systématiques.
Mais il y a des pièges aussi, non ? Le risque, parfois, c'est de tomber dans la pensée de groupe, le groupthink.
Exactement, c'est le principal écueil. Quand la recherche de consensus à tout prix ou la pression à la conformité empêche l'expression des désaccords, des idées minoritaires, de l'esprit critique.
Et on finit par prendre collectivement une mauvaise décision que personne n'aurait prise individuellement.
C'est le paradoxe. Donc, les mécanismes d'interaction sont cruciaux pour garantir que les désaccords constructifs puissent s'exprimer, qu'on challenge les idées. L'étude mentionne que des entreprises comme la SNCF travaillent activement là-dessus.
D'accord. Ça, c'est l'intelligence collaborative. Et l'autre forme, celle qui est qualifiée de statistique, là, ça devient moins évident.
Oui, c'est assez contre-intuitif au premier abord, mais c'est fascinant. L'intelligence collective statistique, elle ne repose pas sur la discussion, la délibération ou l'influence mutuelle. Au contraire.
Ah bon ?
Elle repose sur l'agrégation d'un grand nombre d'avis, de jugements ou de données indépendantes. L'exemple classique, qui est repris dans le rapport, c'est celui de Francis Galton en 1906.
Le cousin de Darwin, c'est ça ?
Lui-même. Lors d'une foire agricole, il a demandé aux gens d'estimer le poids d'un bœuf qui allait être abattu. Il a collecté près de 800 estimations.
Venant de toutes sortes de jours, j'imagine.
Oui, des experts bouchers, des fermiers, mais aussi des simples visiteurs des badauds. Pris individuellement, beaucoup d'avis étaient complètement à côté de la plaque.
J'imagine bien.
Mais quand Galton a calculé la médiane de toutes ces estimations, c'est-à-dire la valeur du milieu une fois tous les avis rangés par ordre croissant,
oui.
Elle était à 1197 livres, pour un poids réel du bœuf de 1198 livres.
Incroyable, c'est quasi parfait.
C'est stupéfiant, la sagesse de la foule, comme on dit parfois. L'agrégation d'avis indépendants était plus précise que la quasi-totalité des experts individuels.
Mais comment ça marche, Dédin ? C'est magique ? Il doit y avoir des conditions pour que ça fonctionne, non ?
Absolument pas magique. Galton lui-même et d'autres après lui ont identifié les conditions clés. Premièrement, il faut le nombre. Assez d'avis, assez de données, pour que les erreurs aléatoires, les biais individuels aient tendance à s'annuler mutuellement.
D'accord, la loi des grands nombres.
En quelque sorte. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, la diversité. Les participants à l'expérience de Galton avaient des profils très variés, des connaissances différentes, des façons de raisonner différentes. C'est cette diversité des perspectives qui est essentielle.
Si tout le monde pense pareil, ça ne marche pas.
Non. Troisièmement, l'indépendance. Chacun doit former son jugement sans être influencé par les autres. Si les gens commencent à discuter entre eux, à se copier, à suivre l'habit dominant, alors la magie n'opère plus. L'intelligence collective statistique s'effondre.
Donc, nombre, diversité et indépendance. C'est un peu l'ancêtre de ce qu'on fait aujourd'hui avec le big data, non ? Agréger plein de signaux faibles et divers.
C'est tout à fait ça. C'est une logique très puissante pour obtenir une vision globale plus juste, pour détecter des tendances, pour prendre de meilleures décisions dans certains contextes.
Et cette idée de diversité comme condition clé de l'intelligence collective, ça fait un pont parfait avec un autre levier majeur que le rapport met en avant, développer la diversité au sein même de l'organisation.
Exactement. Le lien est direct.
Ce n'est donc pas juste une question d'équité sociale ou d'image de marque, la diversité. C'est un facteur de performance et de résilience.
L'étude la présente vraiment comme ça, oui, comme un facteur fondamental de résilience et d'adaptation. Et elle prend une analogie très parlante avec l'écologie.
Ah oui.
L'exemple donné est celui de la phalène du bouleau en Angleterre. C'est un papillon qui existe sous deux formes, une claire et une sombre.
D'accord.
Au 19e siècle, avec la révolution industrielle, la pollution a noirci les troncs d'arbres dans les villes. Du coup, la forme sombre de la phalène, qui était rare au départ, est devenue mieux camouflée contre les prédateurs.
Et elle a proliféré ?
Exactement. La forme claire, elle, est devenue très visible et a décliné. Mais plus tard, au XXe siècle, quand on a lutté contre la pollution et que l'air est devenu plus propre, les troncs sont redevenus clairs.
Et la forme claire a repris le dessus ?
C'est ça. C'est la diversité génétique initiale, la présence des deux formes, qui a permis à l'espèce de survivre et de s'adapter aux changements environnementaux. Si elle n'avait eu qu'une seule forme, elle aurait pu disparaître.
C'est une superbe métaphore pour une organisation. Avoir des profils variés en termes de parcours, de culture, de genre, d'âge, de compétences, de façon de penser. Ce serait comme avoir un pool génétique plus riche pour faire face à l'imprévu.
C'est exactement l'idée. La diversité des points de vue aide à éviter les fameux biais cognitifs dont on parlait. Elle apporte des solutions plus créatives, plus innovantes aux problèmes. Et la complémentarité des compétences favorise l'entraide, la solidarité face aux difficultés.
Donc, concrètement, ça invite à quoi ? À revoir les politiques de recrutement ?
Oui, à diversifier les recrutements, mais aussi la composition des équipes projets, des groupes de travail, à chercher consciemment cette variété. Et surtout, à cultiver un environnement où la différence n'est pas vue comme un problème, une source de conflit, mais comme une richesse, une ressource stratégique pour l'adaptation et la performance.
Ne pas craindre les différences, mais les valoriser.
Voilà. C'est un changement culturel profond, parfois.
Après ces aspects très centrés sur l'humain, la culture, l'intelligence collective, le rapport aborde aussi des leviers plus structurels. Il mentionne notamment l'organisation matricielle. C'est quoi exactement ?
C'est cette idée de ne plus dépendre d'un seul chef. Oui, c'est un peu ça. C'est le principe du fonctionnement en réseau ou en mode projet, qui est de plus en plus courant. Les collaborateurs, les agents, peuvent être rattachés à la fois à leur responsable hiérarchique classique, celui de leur métier, de leur service d'origine, et en même temps à un ou plusieurs chefs de projet pour des missions spécifiques, transversales.
Ça casse les silos traditionnels, en fait.
C'est l'objectif principal.
Et quels sont les avantages attendus en termes de résilience ? Plus de flexibilité, j'imagine ? Moins de routine aussi, peut-être ?
C'est ça. Les principaux atouts, c'est la flexibilité, une meilleure allocation des talents là où ils sont nécessaires à un moment T, plus de transversalité entre les services, et donc une capacité d'adaptation plus rapide aux changements, puisque les équipes peuvent se former et se défaire plus facilement selon les besoins des projets. C'est souvent aussi plus stimulant pour les collaborateurs, moins de routine. Mais...
Ah, il y a un mais. Toujours.
Oui, il y a un risque non négligeable. C'est celui de la complexité et des tensions potentielles.
C'est-à-dire ?
Mais qui est le vrai chef ? Comment on gère les priorités qui peuvent être contradictoires entre la ligne hiérarchique verticale et le projet transversal ? Comment on évite la surcharge de travail si on est sollicité par plusieurs responsables ?
Le risque d'avoir deux ou trois patrons qui ne se parlent pas ?
Exactement. Pour que le matriciel fonctionne bien et qu'il ne devienne pas une source de stress supplémentaire, et donc l'inverse de la résilience qu'on recherche, il faut des règles du jeu très claires.
De la régulation, exact.
Oui, beaucoup de communication, de coordination entre les différents managers, une clarification des rôles et des responsabilités. Ce n'est pas une solution miracle si la culture de coopération et de dialogue n'est pas là au départ.
Logique, structure et culture doivent aller de pair. L'autre grand levier technique ou structurel abordé, c'est la digitalisation et la science de la donnée. On dépasse la simple dématérialisation des formulaires papier, j'imagine.
Ah oui, largement. L'étude insiste beaucoup là-dessus. Le numérique, ce n'est pas qu'un outil. C'est un levier de transformation profonde de l'action. Et donc, potentiellement, un puissant facteur d'adaptation et de résilience.
Comment ça ?
Il s'agit d'utiliser le numérique pour repenser les processus de travail, pour mieux comprendre les besoins des usagers ou des clients en étant plus centré utilisateur, pour mieux piloter l'action grâce à l'analyse des données, pour favoriser la transparence, la collaboration.
C'est une refonte en profondeur.
Oui. Le rapport cite d'ailleurs Hélène Bégon-Tavera, qui décrit trois grands niveaux d'enjeux numériques pour les administrations, mais je pense que c'est applicable bien au-delà.
Lesquels ?
Elle parle de 1. Fonctionner. C'est la base, avoir les bons outils numériques pour travailler efficacement au quotidien. La messagerie, les outils collaboratifs, etc.
D'accord, l'infrastructure.
Voilà, 2. Produire. Là, on monte d'un cran, utiliser le numérique pour améliorer concrètement les services rendus, les rendre plus accessibles, plus simples, plus efficaces. Et aussi, exploiter les données de manière stratégique pour mieux cibler l'action, évaluer les politiques.
utiliser la donnée pour décider et agir.
C'est ça. Et 3, réguler, lacer encore plus large, comprendre et agir dans l'environnement numérique global avec ses acteurs très puissants, ses enjeux complexes comme la cybersécurité, l'éthique des algorithmes, la souveraineté numérique.
Ça devient stratégique au plus haut niveau.
Tout à fait. Et tout ça, évidemment, ça implique quoi ? Ça implique forcément de nouvelles compétences pour tout le monde dans l'organisation.
Oui, la fameuse montée en compétences.
C'est le corollaire indispensable. Il ne suffit pas d'installer des nouveaux logiciels ou de collecter des données. Il faut développer une véritable culture numérique.
C'est-à-dire ?
Comprendre les enjeux de base, la protection des données personnelles, l'accessibilité numérique pour tous, la sécurité. Savoir un minimum interpréter les données qu'on manipule. Être capable d'expliquer, au moins dans les grandes lignes, comment fonctionne un algorithme qui aide à prendre une décision qui impacte les gens.
L'explicabilité des algorithmes, oui.
C'est une montée en compétences majeure qui doit vraiment être pensée métier par métier. Pour que la technologie soit réellement au service de l'adaptation et de la résilience, et pas juste une source de fractures supplémentaires ou d'inefficacité cachée.
Si on essaye maintenant de rassembler un peu les fils de cette exploration, quels sont les messages clés qui ressortent de cette étude sur la résilience organisationnelle ? Qu'est-ce qu'on retient ?
Plusieurs points forts, je trouve. D'abord, l'idée que la résilience, ce n'est pas une qualité un peu abstraite, un état de fait. C'est vraiment le résultat d'actions concrètes, délibérées, des actions managériales, des choix organisationnels.
Ça se construit activement.
Voilà. Et ça se construit à la fois sur le plan humain et sur le plan structurel. Ensuite, l'importance absolument capitale du facteur humain. On l'a vu avec la CA.
Autonomie, compétence, appartenance.
Prendre soin de ses besoins fondamentaux. Reconnaître et soutenir ceux qui portent le fardeau émotionnel, les fameux toxic handlers. Et cultiver activement la diversité et l'intelligence collective sous ses différentes formes. C'est vraiment le cœur du réacteur humain de la résilience.
Et sur le plan plus organisationnel, plus structurel ?
L'idée que les structures elles-mêmes doivent évoluer vers plus de souplesse, plus d'agilité. L'organisation matricielle en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Et que le numérique, quand il est bien maîtrisé, bien intégré, est un formidable accélérateur d'adaptation.
Donc humain, structurel, technique, tout est lié ?
C'est ça le point essentiel peut-être. C'est que ces différents leviers ne sont pas indépendants les uns des autres. Ce n'est pas un menu à la carte où on choisit une ou deux options. C'est leur combinaison cohérente, leur synergie qui crée cet écosystème favorable dont parlait le rapport au début.
Saupoudrer une seule mesure ici ou là, ça ne suffira pas.
Probablement pas. C'est vraiment une approche systémique qui est nécessaire.
C'est cette approche systémique qui est intéressante, en effet.
Tout à fait. Et ça ouvre d'ailleurs sur une réflexion, peut-être pour aller un peu plus loin que le rapport lui-même.
Oui.
Ce document met très bien en lumière l'importance cruciale de soutenir les individus clés, notamment ces toxic handlers. C'est indispensable. Mais la question qui se pose, c'est comment trouver le juste équilibre ?
Équilibre entre quoi et quoi ?
Entre soutenir ces individus pour qu'ils puissent continuer leur rôle précieux, sans pour autant que l'organisation ne devienne complètement dépendante de ces quelques héros, au risque de les épuiser, et en même temps, travailler sur les causes profondes.
Les causes qui génèrent la toxicité au départ.
Exactement. Travailler sur les structures, les modes de management, la charge de travail, la clarté des objectifs, tout ce qui génère du stress, de la confusion, de la souffrance inutile. Autrement dit, comment on passe d'une logique où quelques personnes réparent les dégâts émotionnels à une logique de prévention beaucoup plus intégrée.
Comment rendre l'organisation intrinsèquement moins génératrice de toxicité à la base pour moins avoir besoin de handlers ?
C'est exactement ça. Comment on construit des environnements de travail qui sont fondamentalement plus sains, plus soutenants, plus capables de gérer les tensions de manière collective ? C'est peut-être ça le prochain chapitre de la résilience organisationnelle.
Une question fondamentale en effet. Et une excellente piste de réflexion pour conclure. De quoi nourrir nos pensées bien au-delà de cette discussion. Voilà qui termine notre exploration des leviers de la résilience organisationnelle, nourrie par cette riche étude du CDIP. Merci de nous avoir suivis.